autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour nous interroger sur les dauphins. Qui sont vraiment ces cétacés qui nous font rêver? Au-delà de l'image véhiculée par la fiction, qu'en est-il réellement de leur intelligence, de leur communication et de leur langage, de leurs émotions, de leurs apprentissages et même de leur culture? Pourquoi et surtout comment déconstruire tous les clichés qui leur collent à la peau pour se glisser justement dans leur peau, dans la peau d'un dauphin? C'est le titre de l'ouvrage à nul autre pareil de notre invitée, l'éthologue Fabienne Delfour, spécialiste des mammifères marins, chercheuse en cognition animale, l'une des rares cétologues françaises, qui nous force à reconsidérer les dauphins, ces mammifères sociaux si étrangement familiers, comme des êtres singuliers. Donc à la première personne du singulier. Et là, ça change tout. Et c'est encore plus extraordinaire. Saviez-vous que les dauphins s'interpellent et se sifflent par leur nom? Que ces acousticiens hors pair font l'école sous l'eau à leurs petits et même leur éducation sexuelle? Qu'ils forment des alliances pour ériger de très complexes pièges à poissons? Qu'ils sont aussi hypersensibles et très manipulateurs? Autour de la question pourquoi et comment se glisser dans la peau d'un dauphin? Bienvenue pour laisser de côté tout ce que vous croyez savoir sur notre ami d'enfance, Flipper le dauphin.
They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of wonder, flying there under the sea. Everyone loves the king of the sea. Ever so kind and gentle is he. Tricks he will do.
Bonjour Fabienne Delfour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour déconstruire précisément ce qu'on vient d'entendre, ce cliché romantique de Flipper le dauphin, mais surtout pour en reconstruire un autre, alors non pas de cliché, mais une autre image bien plus vraie, singulière et stupéfiante, que vous explorez vous-même depuis de nombreuses années. Vous êtes une des rares cétologues françaises, spécialiste des mammifères marins et de leur cognition. Vous enseignez actuellement à l'école vétérinaire de Toulouse, dans un nouveau département éthologie, éthique et bien-être animal, et vous êtes tout particulièrement spécialiste des dauphins, auxquels vous consacrez vos recherches jusqu'à vous glisser carrément dans leur peau, ou plus exactement dans la peau d'un dauphin. C'est le titre de votre ouvrage, génial, extraordinaire, qui vient de paraître chez Flammarion et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis, auditrices et auditeurs. Vous y peut-être découvrirez particulièrement comment, à la première personne du singulier, c'est vraiment comme ça qu'il faut approcher chaque dauphin, c'est comme ça qu'il faut l'étudier, à la première personne du singulier, Fabienne Delfour.
Oui, en fait, aujourd'hui, la science a montré qu'ils étaient tous différents, ils avaient des personnalités différentes, des singularités. Donc oui, pour aborder les animaux, maintenant, on est obligé de les prendre individuellement et de les suivre à la première personne.
À la première personne, on y viendra, parce que vous allez nous faire écouter leur nom. Hein. Ils ont des signatures, vous savez les reconnaître, notamment grâce à leur nom, et eux-mêmes se reconnaissent. C'est vrai qu'en éthologie, aujourd'hui, on considère les animaux au singulier, à la première personne, ils sont tous différents. Ceux-là, les dauphins, sont des mammifères marins assez impressionnants, sociaux. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a attiré vers eux, parce que vous vous êtes mouillé pour eux, vous n'avez pas hésité à vous tremper, à vous jeter à l'eau, mais c'était pas ça qui était prévu au départ dans votre carrière d'éthologue, si j'ose
pas
dire.
Pas du tout, en fait. Pas du tout, oui. Dans mon enfance, j'étais plutôt attirée par des gros animaux aussi, des gros mammifères, mais des éléphants. Et c'était pas du tout mon choix premier, les mammifères marins. Mais je suis aussi de la génération de Flipper, qu'on vient d'entendre, et de donc toutes ces séries télé autour des animaux. Ouais. J'avais une curiosité pour l'animal. Et puis, je suis aussi de la génération où on n'avait pas Internet. On envoyait des lettres pour candidater sur des stages. Et le premier à avoir répondu favorablement, c'était John Ford à Vancouver sur les orques. Et en fait, voilà.
C'est parti, vous avez commencé par les orques et ensuite vous n'avez plus quitté les dauphins, si j'ose dire, jusqu'à pénétrer leur monde, ou plutôt vous laisser pénétrer par le leur, hein, on va y venir parce que c'est ça votre démarche. Mais d'abord, bon, on quitte un peu la première personne du singulier, qui sont les dauphins? C'est-à-dire quand on dit les dauphins, ça veut dire quoi? Il y a de nombreuses espèces et ils sont partout dans tous les océans du globe
Oui, en fait, on parle souvent du dauphin ou des dauphins, il y a une trentaine d'espèces, hein, donc chacun avec des particularités différentes, des écologies différentes, des modes de vie différents. Et là, c'est vrai que cet ouvrage se focalise plutôt sur les delphinidés, qui déjà regroupent beaucoup d'espèces. Et on va, au cours de l'ouvrage, essayer de comprendre comment ces animaux vivent l'océan, mettent en signification l'océan, mais en prenant vraiment la perspective de ces delphinidés.
De ces delphinidés, alors on a l'habitude, leur image, on le connaît, c'est pas un sourire hein, qu'ils ont sur le visage et sous leur melon, parce que comme ça que ça s'appelle, sous leur melon, c'est pas un sourire qu'ils ont. Là on a un peu tort de se laisser aller à cette image romantique.
C'est un rictus. Mmh. Et donc ce rictus, il va être là, posé, que les animaux soient frustrés, colériques, tristes. Et donc malheureusement, le public a cette image du dauphin toujours souriant et donc toujours content, mais c'est pas du tout le cas.
Ils sont, on va y venir, d'une extrême sensibilité. Ça fait quoi quand on effleure la peau d'un dauphin?
Alors,
Fabienne,
D'abord, ce sont des mammifères. Hein, donc, ils ont une peau qui est douce, qui est chaude. Et je le compare souvent à une botte mouillée, un peu. Donc, cet aspect très, très souple. Mais maintenant, tous les dauphins n'aiment pas être caressés.
C'est ça. Hein. Donc, il faut faire vraiment attention. Ça, on y reviendra. Ils ont de nombreux sens. Ils ont une très bonne vision. C'est des experts de l'acoustique. Ils ressentent énormément, hein, les dauphins. Quels sont leurs différents sens? Vous y consacrez plusieurs chapitres. C'est fascinant.
Oui. Alors, contrairement à l'espèce humaine, effectivement, ils vont utiliser la vision, qui reste un sens très important pour eux. Mais le premier sens qu'ils utilisent, c'est l'audition. Donc, ils vont se repérer grâce aux sons, ils vont communiquer avec les sons, donc ils vont vivre le monde avec les sons. Un peu de manière plus surprenante, ils sont capables aussi de goûter leur environnement. Donc,
c'est fascinant, ils goûtent leur environnement, c'est-à-dire que... expliquez-nous ça, Fabienne.
Ils sont capables de déceler si une femelle est en état d'œstrus, donc prête à se reproduire, en goûtant l'urine de ces femelles. Donc ils ont aussi ce phénomène qu'on appelle la chémoréception, donc la capacité.
Chémoréception.
Voilà. Donc les substances qui sont dans l'eau, ils sont capables de les percevoir. Et après, ce sont des animaux qui sont extrêmement tactiles aussi entre eux.
Ah, tactile entre eux, ils se touchent,
ils se frottent, ils se caressent. Ça fait partie aussi, ça contribue à renforcer les liens sociaux.
C'est ça, parce que ce sont des animaux sociaux. Hein.
Oui, extrêmement sociaux.
On parle beaucoup évidemment de leur communication, de leur langage. Qu'en est-il vraiment? C'est la question que vous pose tout de suite une chercheuse en écologie benthique, José Sarrazin, qui étudie la vie sous-marine avec son complice, l'écrivain David Val, auteur de La vie profonde. Elle l'avait entraîné dans le bateau d'exploration de l'Ifremer, dans les abysses. Écoutez leurs questions.
Moi, je voudrais savoir où on en est de l'exploration des langages des cétacés, justement. Ça me rend curieux. Je sais que j'avais lu que les dauphins, selon certaines tribus, n'ont pas forcément les mêmes cris et que donc il y a un héritage culturel.
Oui, que ça serait un des langages les plus élaborés aussi. Comment ils font pour décortiquer aussi, les différents signaux qu'ils utilisent.
Que pouvez-vous répondre, Fabienne Delfour, à José Sarrazin de l'Ifremer et à David Val, mais aussi à tous nos auditeurs et auditrices qui sont très très friands de votre réponse sur le langage et la communication des dauphins?
Alors, les dauphins restent des énigmes, puisque quand ils communiquent, ils n'ouvrent pas la gueule. Donc, on est incapable, visuellement, de repérer quel est le dauphin qui produit des vocalisations. Donc ça, c'est quand même un obstacle majeur.
Bien sûr. Ah oui, ils n'ouvrent pas la bouche, le son. Et ils n'ouvrent pas la bouche pour communiquer entre eux. Ils ont plein de manières de communiquer entre eux. Vous avez même, on va y venir, conçu un appareil hein, pour les enregistrer, le
cétoscope. Justement, qui nous permet de repérer dans l'espace l'individu qui vocalise, même s'il a la gueule fermée. Donc, pour la première fois, on est capable de visionner dans une scène en 360 degrés le dauphin qui aimait la vocalisation. Et en fait, là, c'est la première étape pour défricher cette communication et ce langage. Et effectivement, le langage est assez riche, puisqu'il va être nourri de postures très particulières.
De postures du corps.
Oui. Donc, avec des tensions, avec des positionnements aussi dans la colonne d'eau, en surface, en profondeur, etc. Et puis, des vocalisations qui vont être émises dans des contextes particuliers. Donc, on a des vocalisations qui signifient « je suis content » et d'autres « je suis mécontent ». Donc, on va, grâce à la contextualisation de ces productions vocales, pouvoir savoir dans quel état émotionnel se trouve le dauphin.
Dans quel état émotionnel se trouve le dauphin qui communique sans même ouvrir la bouche. Pour défricher, vous nous avez apporté quelques sons que vous allez décrypter pour nous. Alors, on l'a dit, ce sont des animaux sociaux, donc on commence par une série de sons que vous appelez des clics, des sons sociaux. Thibaut, on peut peut-être... Vous appelez ça des bursts, c'est ça?
Alors, ce sont des sons pulsés, et ces sons sont émis dans des contextes sociaux, des interactions sociales, mais plutôt intenses. Donc, quand on entend ça, sans repérer les animaux, on sait déjà qu'il y a quelque chose plutôt fort qui est en train de se passer au sein de cette communauté.
C'est pour ça que vous avez appelé ces sons les buzz. On peut peut-être écouter des petits buzz. Ah oui. Il se passe quelque chose entre eux.
Oui, on voit bien, il y a une modulation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de « oui, je suis excitée » et je signifie cette excitation par cette production vocale.
Et puis, il y a aussi des dauphins qui explorent leur environnement, c'est ça. Hein, et dans ce cas-là, ils produisent d'autres genres de clics. Dites-nous ce qu'on vient d'entendre, chère Fabienne.
Ce sont des clics qu'on appelle des clics d'écolocalisation, ce qui permet aux dauphins de se repérer dans son environnement. Pendant très longtemps, on les a réduits à justement uniquement cette exploration. Et on voit qu'ils sont utilisés aussi à d'autres fins, plutôt sociales aussi. Ils vont intervenir dans des apprentissages aussi. Donc, voilà. Mais c'est plutôt... La fonction première, c'est se repérer dans l'espace.
C'est ça, c'est comme les chauves-souris et les colocations. Exactement. C'est-à-dire délimiter où sont les obstacles, où les sources de nourriture, où ce genre de choses. Alors maintenant, chers amis auditrices et auditeurs, ouvrez bien les oreilles parce que là, d'ailleurs moi je vais pousser un peu mon casque parce que ça risque de me faire mal aux oreilles justement. Là, on va écouter, vous nous avez dit que les dauphins s'appelaient par leur nom, se sifflaient par leur nom, avaient des noms et des prénoms. Des signatures vocales. Donc on est prêt, on va écouter une première signature vocale, un premier sifflement. Alors ça, c'est le nom d'un dauphin, le prénom d'un dauphin.
Oui.
On pourrait le dire comme ça.
Oui, donc ils ont la capacité à se nommer et cette identité vocale est un peu comme... moi, je m'appelle Fabienne Delfour. Delfour, je l'ai hérité de ma lignée et Fabienne, c'est ma singularité. Et en fait, chez les dauphins, on va retrouver ça. Donc, en fonction du signal, de la forme du signal, on va pouvoir savoir de quelle famille il vient, à quelle famille il appartient. Et puis, il y aura quelque chose qui va être sa singularité. Un petit bout avant, un petit bout après, une fréquence qui varie. Et rien qu'à partir des sonogrammes, donc ces formes de signaux, on est capable d'identifier des familles de dauphins.
C'est-à-dire que là, c'en est un autre prénom, un autre nom.
Tout à fait.
Et est-ce que vous arrivez à faire la différence? Est-ce que vous pouvez les... parce qu'on vous le disait, ils n'ouvrent pas la bouche. Enfin, comment est-ce qu'on peut... parce que vous connaissez évidemment chacun des dauphins, mais avec vos repères humains, j'imagine.
Alors oui, on va les identifier visuellement. Après, c'est vrai que nous, d'un point de vue acoustique, dans l'eau, en plus, c'est assez compliqué.
Et oui, bien sûr.
Pour repérer la provenance du son. Mais voilà, on va utiliser des petites marques visuelles. Et puis, ils ont des attitudes différentes. Et juste la façon d'arriver, on sait quel est le dauphin, qui il est. Et même...
À sa manière de se déplacer dans l'eau. Vous dire bonjour.
Mais d'approcher, c'est un peu...
D'approcher, enfin, simplement.
Oui, je ne sais pas si vous avez des animaux familiers, si vous avez chat ou un chien.
Bien sûr.
Juste sa façon d'arriver, vous savez s'il est content, pas content, s'il a bien dormi, etc. Et en fait, la familiarité avec les dauphins nous permet aussi, à nous, de savoir s'il est content, pas content.
Même temps, vous dites la familiarité, mais vous avez une démarche, vous n'allez pas près d'eux si... ils n'ont pas envie. Vous expliquez d'ailleurs dans cet ouvrage qu'ils dorment et ils rêvent, les dauphins, qu'il ne faut pas les déranger pendant leur sieste.
Oui, alors j'ai eu la très très grande chance de collaborer avec des personnes qui acceptent ça. C'est-à-dire, il y a des espèces de dauphins qui chassent la nuit et le matin, très tôt, ils se reposent. Donc ils vont avoir ces phases de repos et les respecter, bah, c'est déjà avoir des règles de politesse à leur rencontre. Et donc attendre qu'ils se réveillent pour rentrer en interaction et pas provoquer l'interaction. Et je pense que c'est ça aussi la particularité de ce livre, c'est de montrer que on doit se mettre à disposition des animaux et pas uniquement imaginer qu'ils sont à notre disposition.
On y verra parce que ça a plein de conséquences, notamment autour du tourisme pour nager avec les dauphins qui ne sont pas toujours si heureux que ça, même s'ils abordent ce rictus qu'on prend pour un sourire. On revient peut-être à ces noms, à ces prénoms de dauphins acoustiques. Vous dites que c'est le nom de leur lignée. Comment est-ce qu'ils apprennent comment est-ce qu'ils ont un nom, un prénom et comment ils apprennent à le siffler?
Alors, c'est la mère en fin de gestation qui va produire sa propre signature sifflée. Et à la naissance, le petit va reproduire le son qu'il a entendu.
Le son de sa mère, qui est le son familial.
Le son familial, d'accord. Sauf qu'il va mal le reproduire. Et sa mère va entretenir cette distorsion.
Cette petite différence.
Qui sera, en fait, son nom à lui.
Sa signature.
Oui. Donc, c'est une co-construction entre la signature de la mère et la production du petit. Et ça donne cette signature sifflée qui est unique et qui sera propre à chaque individu.
Et ils se reconnaissent entre eux au niveau des échanges qu'ils ont, ça passe beaucoup par ces sifflements, ces clics. Vous disiez que vous saviez qu'il y a de l'agitation, qu'ils sont excités. Est-ce qu'ils manifestent aussi peut-être leur mauvaise humeur ou je ne sais pas, par leur son et leur langage?
Oui. Donc il y a des rituels, il y a des salutations. Donc on va se présenter. Donc comme ici, je m'appelle Fabienne Delfour. Eux, ils vont produire leur signature sifflée. Donc le groupe va savoir que l'individu est là. Ils peuvent s'interpeller, c'est-à-dire ils ont appris les autres signatures sifflées. Donc ils peuvent choisir de discuter avec un dauphin en particulier. Et puis, il y a 10 000 façons de dire je suis content ou pas content, par des postures, mais aussi par ces vocalisations. Et les buzz qu'on a entendus, par exemple, il y en a certains qui sont très agressifs en disant je suis vraiment très mécontent.
Et ça, vous dites que vous avez du mal à le voir sous l'eau. Vous dites que c'est par leur forme, enfin la manière dont ils vous approchent que vous les reconnaissez. On a parlé aussi du sommeil et de la sieste des dauphins. Comment ça dort un dauphin dans l'eau, sous l'eau?
Alors, un dauphin doit penser à respirer.
Doit penser à respirer.
La respiration n'est pas automatique. Donc, ça complique un petit peu la chose.
Parce que les dauphins étaient terrestres, enfin, leurs ancêtres étaient terrestres il y a très longtemps.
Oui, et puis vivre immergé pour un mammifère marin, à un moment donné, il faut qu'il pense à remonter à la surface.
D'accord.
Et donc, la conséquence, ça va obliger l'animal à avoir des phases de sommeil très très courtes qui ressemblent à des longues apnées. Donc, il va mettre en repos un hémisphère après l'autre. Donc, il va dormir avec un hémisphère et garder un certain état de vigilance qui est tout à fait... ils en ont besoin pour évoluer dans le milieu dans lequel ils évoluent. Et donc, un dauphin qui dort continue à bouger et à nager. Et c'est ça qui est aussi assez difficile à comprendre pour le grand public parce que les animaux progressent dans l'eau, mais ils dorment.
Et vous le savez parce qu'ils ont quoi? Un œil fermé? L'œil de l'hémisphère fermé?
C'est ça.
C'est à peu près
oui,
ça.
Oui, ils ont un œil fermé, ils ont des mouvements qui sont beaucoup plus réguliers, ils vont avoir ces longues apnées. Donc il y a vraiment une multitude de petits signaux qui indiquent que là, ils sont en repos.
Autour de la question comment se glisser dans la peau d'un dauphin, moi, je préférais peut-être me glisser dans la peau d'une dauphine, si j'avais le choix, parce que je trouve plus sympathique. Mais bon, vous allez comprendre, tout à l'heure, du côté de la Réunion, dans cet océan indien que vous connaissez bien, Fabienne Delfour, où vous trempez, comme vous dites, pour suivre une communauté de dauphins et de dauphines que vous appelez donc par leur prénom, on se coule, nous, dans le son du maloya réunionnais, mais pas n'importe lequel, un maloya entièrement féminin, s'il vous plaît. Elle s'appelle Simanga Volée et ce groupe ne compte que des voix et des musiciennes de la Réunion et de la diaspora. Le titre de ce morceau, j'essaye mon réunionnais créole, pardonnez-moi, Manière et Forme.
Combien d'années ça
Maloya réunionnais exclusivement féminin, si maga volé sur RFI. Manière femme, manière forte, c'est comme ça que s'appelle ce morceau. Sur RFI, nous sommes en compagnie d'une des rares cétologues françaises, Fabienne Delfour, spécialiste des mammifères marins, chercheuse en cognition animale. Autour de la question, comment se glisser dans la peau d'un dauphin, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Fabienne, Dans la peau d'un dauphin, paru aux éditions Flammarion, et dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Pour vous qui nous écoutez au bord de l'océan Indien, comme au bord de l'Atlantique ou du Pacifique, ou d'ailleurs, saviez-vous que les dauphins et les dauphines font de l'éducation sexuelle? En fait, ce sont les femelles dauphins qui font de l'éducation sexuelle avec leurs petits, que ce soit des petits mâles ou des petits femelles, n'est-ce pas, Fabienne Delfour? C'est en tout cas une des révélations pour moi. Il y en a d'autres de votre ouvrage. Racontez-nous ça.
Oui. Donc, les mères sont les meilleurs professeurs d'éducation sexuelle et elles vont encourager les petits déjà assistés à leurs ébats, à regarder comment les comportements de cours se mettent en place. Et elles vont même encourager les petits à avoir des comportements sexuels à leurs égards.
Et ça, c'est parce que, comment ils font les dauphins pour ce... Enfin, l'acte sexuel chez les dauphins dans l'eau, c'est...
Il est extrêmement furtif. Donc, le mâle va nager à l'envers, il va introduire son pénis, ça dure vraiment très très peu de temps. Mais auparavant, parfois, il y a des comportements de cours qui sont mis en place avec justement des vocalisations dont on vient d'entendre, ces sons pulsés.
D'accord, donc il y a vraiment pour séduire sa belle.
Séduire, frotter, caresser, cajoler. Et souvent, ces mères qui sont courtisées par des mâles sont accompagnées de leurs petits. Et donc, les petits assistent en premier, en direct, à ces comportements de cours et ils vont les reproduire sur leur mère en premier.
Mais c'est ça qui est vraiment hallucinant. Donc les petits mâles reproduisent sur leur mère et même elle joue parfois le rôle du mâle avec ses petites avec ses petites filles, je ne sais pas comment dire, ses petites dauphines.
On a découvert que les femelles avaient un clitoris fonctionnel. Donc,
les femelles dauphins.
Voilà. Et donc parfois elles vont introduire la pectorale, donc la nageoire pectorale de leur petit dans leur fente génitale. Et donc on a tous ces apprentissages qui sont mis en place. Et...
Mais c'est ça, parce qu'en fait ce que ça révèle, évidemment, c'est l'apprentissage, c'est aussi l'entraide, enfin les alliances, parce que vous racontez comment certaines dauphines plus âgées vont venir se secourir des dauphines plus jeunes qui sont très embêtées par des mâles. Enfin c'est assez étonnant, c'est vraiment une société qui fonctionne en entraide et qu'il y a de l'apprentissage, les plus âgés après nos plus jeunes, soutiennent les plus jeunes.
Oui, on va parler de leadership, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, il y a une solidarité, un réseau social qui va se mettre en place d'une part chez les femelles. Donc, on a des entraides, on a des femelles qui vont faire du babysitting pour aider les jeunes mamans inexpérimentées.
Ah, d'accord. Elles regardent leurs petits quand elles ne veulent pas s'en occuper ou quand elles ne savent pas trop comment faire.
Ou quand elles ne peuvent pas, qu'elles sont épuisées. On vient de voir qu'elles ne dorment pas très longtemps.
Bah oui, d'un seul œil et pas longtemps.
Voilà. Donc, faites ça pendant une semaine et on est vite épuisé. Donc, elles sont vite exaspérées par ces bébés. Donc, les femelles les plus expérimentées vont venir les aider. Ça se passe chez les femelles. Et il y a autre chose qui est très très fort chez les mâles. Dès la petite enfance, on a deux mâles qui vont devenir copains pour la vie et ils vont former cette alliance extrêmement forte.
C'est extraordinaire, vous racontez ça vraiment, amis pour la vie. C'est des mâles qui s'associent entre eux et si l'un meurt, l'autre va avoir beaucoup de mal à vivre, quoi, en fait. Mais c'est quoi? C'est une amitié de c'est parce qu'ils sont des animaux sociaux
C'est une très forte camaraderie qui est basée aussi sur une entraide. On est plus fort à deux que tout seul. Mm-hmm. Mais on a ces dyades, donc ces duos de mâles, avec un agencement particulier, puisque quand il va y avoir besoin de renfort, on a des alliances qui vont se mettre, qui vont se construire autour de ces duos. Donc c'est vrai que quand on pense aux dauphins, on pense à des animaux sociaux. Mais les dauphins les plus sociaux avec des amitiés très pérennes, ce sont les mâles, pas les femelles. Les femelles, ce sont des opportunistes sociales.
D'accord. Et qui se réunissent ensemble quand elles en ont besoin. Et est-ce que ce dont vous parlez là, ça se retrouve chez tous les groupes de dauphins, toutes les espèces de dauphins, ou est-ce que ça diffère selon les endroits géographiques, les mers qu'ils habitent, les mers MERS ou les océans qu'ils habitent?
Alors, laissez-moi encore 30 ans, parce que cette question, on ne peut pas y répondre aujourd'hui.
Oui.
Donc, parce que on a difficilement accès à tous les dauphins. Je parle des animaux qui sont les plus étudiés. Il y a énormément d'espèces de dauphins qui sont très peu étudiées. Donc, je ne peux pas vous répondre.
Est-ce que vous allez pouvoir, autour de la question jusqu'où nous entraînerons les dauphins, Fabienne Delfour, répondre à cette nouvelle question que soulève Joanne Kicken. C'est l'auteur d'un ouvrage, L'eau dans l'univers, aux éditions du CNRS. Il est aussi médiateur à Univers Science. Il était récemment notre invité. Et voilà ce qu'il voulait vous demander.
Bonjour Fabienne. Je me posais une question qui peut être un peu bête, mais les dauphins ont-ils une culture ? Sont-ils en capacité d'avoir une culture ? Est-ce qu'on peut imaginer une culture en trois dimensions ? On peut aller partout dans l'eau, en haut, en bas, devant, derrière, à gauche, à droite. Cette culture est-elle envisageable ?
Tout votre à fait. Réponse. Ah oui.
Oui,
ils ont une culture.
Ils ont des cultures.
Des cultures.
C'est la définition d'une culture, ce sont des savoirs locaux qui vont être appris, transmis par une population à un endroit particulier. Par exemple, il y a la pêche à l'éponge en Australie qui est pratiquée par ces dauphins qui vont prélever des éponges pour aller chercher des poissons dans les rochers. C'est uniquement développé par cette population de dauphins à cet endroit-là.
Qui se servent des éponges pour capturer des...
Pour se protéger. Ah, pour le rostre. on va en Amérique et là, on trouve des dauphins qui ont mis en place d'autres techniques de pêche qui vont justement utiliser la tridimensionnalité, ils vont faire remonter la boue des sols pour encercler les bancs de poissons, ils vont pousser les poissons sur les berges. Donc on a l'émergence de multiples endroits dans le monde de ces savoirs locaux qu'on appelle des cultures.
Avec des pièges, vous l'avez dit, très très sophistiqués. Ils aiment bien jouer aussi, ils font plein de jeux les dauphins, ça vous l'avez aussi constaté.
Alors ils jouent plus quand ils sont jeunes. Avec l'âge, ils vont moins jouer.
Eh oui, un peu comme nous. Hein.
Voilà, ça nous parle assez. Et ils sont extrêmement innovants. Ils vont tester des choses. Le fait aussi d'être dans cette tridimensionnalité, ils vont beaucoup explorer aussi cette tridimensionnalité. Ils vont manipuler aussi les autres. Ils vont tromper, ils vont mentir.
Mais oui, c'est ça. Alors voilà un aspect, peut-être la face cachée des dauphins, mais qu'on n'a pas du tout voulu voir. Ils sont très manipulateurs, très intelligents et très manipulateurs, les dauphins.
Ils ont la capacité de se mettre à la place de l'autre et du coup comprendre ce que la perspective de l'autre. Et je raconte dans le livre cette anecdote où on est en réunion et on discute à côté du bassin des dauphins.
Parce que vous travaillez à la fois en milieu naturel dans l'océan et aussi dans des delphinariums pour les étudier en captivité.
Oui. Voilà. Et donc, on est en réunion et fréquemment, on est interrompu par un dauphin qui tousse. Et c'est vrai que cette toux est assez préoccupante. Et donc, régulièrement, un soigneur va voir ce qui se passe jusqu'à ce que la responsable du delphinarium dise « Il faut arrêter parce que je ne pense pas que ce soit une toux parce que le dauphin est malade. » Et effectivement, une fois qu'on a arrêté d'aller voir ce qui se passait, le dauphin a arrêté de tousser.
Il toussait pour attirer votre attention.
Oui. Et ça marchait bien.
C'est quand même, c'est complètement insensé. Qu'est-ce qui vous, peut-être, vous a le plus étonné, fasciné? Enfin, j'imagine qu'à chaque fois, il y a des nouvelles découvertes. Mais un moment, peut-être, comme celui-là, d'ailleurs, de moments insensés, quoi, où le dauphin est tous pour attirer votre attention.
J'ai adoré et j'adore vraiment découvrir ces personnalités animales, c'est-à-dire voir chacun proposer qui il est. Et lui donner la possibilité d'exprimer ça. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais quand on fait une expérience et que le dauphin décide de ne pas participer et qu'il vous dit non, et qu'il y a 10 000 façons de vous dire non, j'adore ça.
Et comment il vous dit non? Vous le racontez, hein, des fois, ils veulent pas, ça les amuse pas du tout. Quoi.
Pas du tout. Et il y avait une femelle en particulier, Bailey, qui... elle était la jeune maman d'une jeune femelle. Elle s'en occupait pas particulièrement, mais quand on l'a sollicitée pour une expérience qu'elle n'appréciait pas particulièrement, elle allait récupérer son bébé et nous présenter son bébé. Alors, je vais faire de l'anthropomorphisme, mais c'était
elle
une manière de
s'occuper, quoi. Hein.
Voilà.
Autour de la question comment se glisser dans la peau, j'ai envie de dire dans la tête, dans le cerveau d'un dauphin. Nouvelle question pour vous, Fabienne Delfour, soulevée par mon confrère de Science et Vie, Thomas Delosier.
On parle de plus en plus de la conscience du poulpe. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'animaux qui ont de la conscience. Et où est-ce qu'on en est sur les cétacés? Est-ce que chez les dauphins, les baleines, on peut parler de conscience ou pas?
Votre réponse, Fabienne Delfour.
Les dauphins font partie des rares animaux qui reconnaissent leur image dans le miroir. Mmh. Donc, ils ont cette connaissance de leur image spéculaire. Donc, ils ont conscience de leur représentation visuelle.
Conscience d'eux-mêmes?
Oui. Et aujourd'hui, en fait, cette question de conscience, elle va plutôt vers la notion de sentience, donc la capacité de vivre à la première personne, d'avoir des émotions, d'avoir des croyances, d'avoir cette fameuse conscience. Et aujourd'hui, on ne peut pas dénier le fait que les dauphins aient cette sentience.
Et ça va très très loin, parce que vous dites qu'ils ont cette sentience, je ne sais pas si cette conscience, mais en tout cas cette sentience de la mort. Enfin, en tout cas, il y a un rapport particulier des mères, notamment, avec leur enfant. Enfin, on pleure ses morts chez les dauphins.
On observe, alors pendant très longtemps, c'est resté des anecdotes, sauf que voilà, ces anecdotes sont observées de plus en plus. Et on voit des mères, effectivement, avoir des comportements qu'on peut observer chez d'autres espèces, des comportements un peu ritualisés, ce qui nous a amené à mettre un nom dessus de comportement de deuil. Donc on a des femelles qui sont apathiques, qui vont perdre l'appétit, qui vont rester auprès de la carcasse de leur bébé, qui vont le transporter des jours, même des semaines durant. Et un jour, elles vont le laisser partir. Et c'est comme si se mettait en place ce comportement de deuil, cette séparation d'un être auquel on est extrêmement attaché.
C'est très impressionnant chez les dauphins. Vous les étudiez à la fois en milieu naturel, on l'a dit, dans l'océan, aussi dans des delphinariums. Pourquoi ? Pour comprendre un peu mieux ces interactions-là, pour les suivre
Alors, j'ai grandi en fait avec ce double questionnement, puisque la première personne avec qui j'ai travaillé, c'était John Forn, qui travaillait aussi bien en parc zoologique qu'en milieu naturel. Et j'ai trouvé les deux extrêmement complémentaires. C'est vrai que l'accessibilité des animaux en parc zoologique, pour un chercheur, c'est magnifique. Hein. On arrive, ils sont là, etc. Et cette complémentarité de voir est-ce que je peux vraiment poser les mêmes questions en parc zoologique et en milieu naturel ou pas. Est-ce que c'est vraiment... Il y a beaucoup de dissemblances. Peut-être pas toujours. Et comment ils organisent leur vie, qui ils sont. Ça, c'est quelque chose qui a motivé toute ma carrière professionnelle. Et pouvoir jouer sur les deux, c'est extrêmement enrichissant.
C'est très différent. Enfin, on se doute bien, vous pouvez beaucoup plus approcher en parc zoologique, en delphinarium, les animaux que vous étudiez au singulier, mais leur comportement change beaucoup pas ce dans sont la... des animaux sauvages,
oui,
et pas
alors,
domestiques.
Hein. Voilà, exactement. Et donc, dans leur organisation sociale, on va retrouver les mêmes choses. On va retrouver ce leadership avec les femelles, avec les mâles, les associations en dyades, ces phénomènes d'entraide et solidarité entre les femelles. Donc, c'est pas si différent que ça.
Autour de la question, comment se glisser dans la peau d'un dauphin si l'on pousse au bout la question, et puis qu'on la retourne, ça donne une autre interrogation soulevée par un de vos confrères, si j'ose dire. Il est vétérinaire de faune sauvage, directeur scientifique du zoo de Vincennes. Alexis Lécu était récemment notre invité. Il nous a laissé une question qui, je sais, va vous réjouir.
Bonjour Fabienne. La question serait de savoir, à son avis, quelle est la place de l'homme dans la vision du dauphin. Vraiment de façon complètement naïve.
Est-ce que vous pouvez répondre, chère Fabienne, à Alexis Lécu ? C'est compliqué hein, de demander à un dauphin quand même comment il vous voit.
J'adore. Ben, parfois, on n'existe même pas. Donc voilà, on est insignifiant, on n'est rien du tout. Parfois, on est un obstacle. Et parfois, rarement, on peut être des partenaires de jeu. On peut faire partie aussi des comportements sociaux, etc. Donc parfois, ils vont à notre rencontre, ils nous acceptent et ils vont créer cette interaction.
Par exemple, racontez-nous un jeu que vous avez pu faire avec un dauphin ou une invitation que vous a faite un dauphin.
Les dauphins à long bec, qui vivent, ceux que j'ai étudiés, c'était à Hawaï, nagent souvent avec des morceaux d'algues sur une nageoire pectorale. Et pour vous inviter à jouer avec eux, ils vont venir se placer juste devant vous. Ils vont laisser tomber cette algue devant vous et ils vont regarder si vous la prenez ou pas. Et si vous la prenez, il y a un accord tacite avec ce dauphin. Et vous allez mettre en place ce jeu-là. Donc ça va être à votre tour de la laisser tomber, il va la reprendre, etc. Et ce que j'aime là, c'est lui qui a initié l'interaction, mais c'est lui aussi qui va la finir. Et là, tout d'un coup, il a le contrôle sur cette interaction avec un humain, ce qui est extrêmement rare et précieux.
Et justement, vous nous alertez du coup aussi dans votre livre à toutes ces, à ces touristes qui veulent, et on le comprend, hein, aller nager avec les dauphins, et même à ce côté thérapeutique que peuvent avoir les dauphins. Vous dites qu'en fait, attention, on va souvent vers les dauphins en pensant que ça les amuse, mais en fait, on est très agressif. Et vous voyez à quel point les dauphins sont stressés.
Alors, on pense que parce qu'il est présent, il est là, il accepte notre, le fait qu'on va aller à l'eau avec lui. Bah, il vit dans ce milieu-là, donc il ne peut pas aller ailleurs. Et après, effectivement, parfois, nos comportements sont extrêmement intrusifs, hein, même sans le savoir.
Ouais, c'est ça.
Poursuivre des animaux, on va poursuivre des animaux qui sont, auxquels on va pouvoir aussi adapter notre nage. Donc en général, on va privilégier des animaux qui sont plutôt lents. Les animaux qui sont plutôt lents, ce sont des femelles qui sont accompagnées de leur bébé, et c'est les plus vulnérables. Donc cette intrusion dans leur vie sociale peut être extrêmement préjudiciable. Et donc, effectivement, j'explique qu'il y a peut-être des règles de politesse à respecter pour aller à leur rencontre.
Quelles seraient ces consignes de politesse quand on veut s'approcher un peu de ces dauphins, de ces animaux, vous le dites, hein, si étrangement familiers et si singuliers. Et puis s'en approcher à la première personne, on l'a bien compris.
Déjà, les observer. Donc, prendre un temps pour observer ce qu'ils font. Est-ce qu'effectivement, ils restent là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que je n'interromps pas quelque chose dans leur vie sociale ? Et à partir de ce moment-là, je me mets à l'eau, mais je reste statique. Ce n'est pas moi qui vais poursuivre. Mmh. Et là, on s'aperçoit que certains, pas tous, hein, mais parfois, il y a un ou deux dauphins qui va venir et qui va d'abord se demander qui vous êtes, par curiosité.
Donc, comment ils vous demandent qui vous êtes ?
Ils vont passer assez rapidement un premier tour d'observation. D'accord. Genre, ça va ou ça va pas. Et puis, il va revenir. Et puis, parfois, il va revenir avec un objet qui va vous laisser devant vous. Et voilà, tout à coup, on peut rentrer dans cette interaction, dans cette rencontre, dans ce partage.
Autour de la question comment partager, comment se glisser presque dans la peau d'un dauphin, comment jouer avec un dauphin, comment croiser son regard, le sentir nous frôler. C'est dans l'océan Pacifique, vous en avez parlé, hein, du côté de Hawaï, Fabienne Delfour, que va nous entraîner maintenant, vont nous entraîner vos amis les dauphins, nos amis les dauphins, au son d'une musique, cette fois-ci tout à fait audible à nos oreilles humaines, Sea of Love. Et oui, c'est la star hawaïenne Israël Kamakawiwo Olé sur RFI.
Do you remember when we met? Ooh, it was a day I knew you were my pet baby. I want to tell you, oh, how much I love you. I do. Come with me, my love, to the sea, my sea of love, baby. I want to tell you, oh, just how much I love you. Yes, I do. So come. Baby, I want
fleuve de l'hawaïen Israël Kamakawiwo Ole sur RFI. Ça vous plaît, hein, ça vous rappelle des choses, Hawaï, Fabienne Delfour?
Oui, tout à fait. Ça me reporte dans cet endroit qui est magnifique.
Et dans les eaux profondes du Pacifique autour d'Hawaï. Autour de la question empruntée à votre ouvrage, comment se glisser dans la peau d'un dauphin, ces mammifères sociaux si étrangement familiers qui se révèlent si singuliers quand, comme vous, on les suit, on les étudie, on se trempe avec, on joue avec et on les interroge à la première personne du singulier. Ces extraordinaires mammifères marins sont pourtant évidemment menacés. À ce sujet, nouvelle question pour vous, soulevée par Pierre-Marie Saradin, il est directeur à l'IFREMER à Brest, de l'Institut de recherche sur les écosystèmes profonds en mer.
On parle beaucoup actuellement en Bretagne justement des captures accidentelles de dauphins. Et la question c'est, est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de dauphins qui soient pris dans les filets, c'est aussi un signe du réchauffement justement de l'eau?
Est-ce que vous avez des réponses, Fabienne?
Alors effectivement, c'est dû à ce réchauffement climatique, donc aussi une raréfaction des ressources, mais aussi parce que les dauphins ont appris une nouvelle technique de pêche, qui est d'aller vers ces filets.
Et oui, en fait, ils sont innovants, et donc du coup, ils ont bien compris qu'il y avait des poissons autour, et ils se font attraper.
Oui, c'est une ressource alimentaire qui est disponible, donc ils vont apprendre à retirer de ces filets leurs proies. Mais malheureusement, ça laisse, c'est très souvent létal pour ces animaux.
Comment, alors je ne sais pas si c'est les protéger, mais en tout cas, déjà de mieux les connaître, puis de donner envie de les protéger, est-ce qu'ils sont menacés, enfin les dauphins, toutes les espèces de dauphins qui vivent dans les mers du globe?
On ne sait pas parce que c'est rarement... on a peu d'informations sur les populations, sur le fait qu'elles se reproduisent bien. On va suivre maintenant, effectivement, avec du recul, on a quand même un état des lieux qui peut être dressé. Mais il y a de plus en plus de nuisances, de pollution.
Pollution sonore,
des pollutions chimiques, etc.
Oui, ils sont très sensibles à ça puisqu'ils les goûtent, les polluants chimiques.
Oui. Et donc, est-ce que ces animaux sont vulnérables? Très probablement. Où en sont les populations mondiales? On ne peut pas savoir. Je pense qu'il y a des populations qui sont plus robustes que d'autres, parce qu'ils vont vivre dans des environnements différents. Il y en a d'autres, des populations qui sont plus opportunistes aussi que d'autres. Donc les espèces qui sont très spécialisées dans des endroits très localisés sont extrêmement vulnérables.
Et leur proximité parfois avec les humains les rend aussi vulnérables peut-être?
Oui, parce que malheureusement, ces activités humaines ont une incidence sur la vie des animaux. On fait beaucoup de bruit. On vient de voir que ce sont des animaux qui ont une expertise en acoustique qui est quand même très poussée. Donc faire du bruit, ça va cacher une partie de leur communication.
Ah oui, ils ne peuvent plus communiquer ou mal communiquer.
Exactement. Donc même si ce n'est pas tangible, il y a aussi tous ces effets-là.
Qu'est-ce que vous en retenez? Enfin, est-ce que ça vous a transformé, Fabienne Delfour, Alors, vous ne dites pas nager avec les dauphins, vous dites vous tremper, j'adore ça, avec les dauphins, les étudier, les suivre, les étudier en tant qu'individu, qu'être singulier.
Déjà, ça m'a remise à mon niveau, c'est-à-dire on n'est plus du tout au top de la chaîne alimentaire, on est en plein milieu de la chaîne alimentaire.
Ah oui, puis l'océan, ce n'est pas notre milieu. Enfin,
pas du tout. Et on apprend aussi qu'en restant des observateurs passifs, on a plus de chances d'avoir accès à leur intimité. Et je pense que ça m'a appris ça. Ça m'a appris une manière d'observer ces animaux en restant à ma place. Mais en comprenant aussi que parfois, s'ils le décidaient, je pouvais aller aussi à leur rencontre. Et cette mise à disposition et cette rencontre vers l'autre, vers cette altérité, est pour moi extrêmement enrichissante.
C'est ça, c'est vraiment l'autre à tous les niveaux, enfin un autre absolu.
Oui, avec, on vient de parler de ces émotions, ils ont des comportements de deuil, ils forment des alliances, ils ont une organisation sociale extrêmement poussée. On voit bien qu'ils créent des mondes animaux, et avoir accès à ces mondes animaux, c'est le plus beau des voyages.
Ils rêvent aussi, hein, les dauphins. Mais ça, pour décrypter leurs rêves, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous auriez un message finalement à adresser à nos auditrices et à nos auditeurs? On a tous, on a quelque chose avec les dauphins, on est tous quand même plus ou moins attirés par les dauphins.
Aller au-delà des apparences, donc oublier ce rictus, oublier la vision romantique, et je pense qu'en renaturant le dauphin, on va le respecter. Et le respecter en ces termes, donc en termes dauphin. Et imaginer le monde en termes dauphin, je pense que c'est un cadeau magnifique.
Est-ce que vous, je ne sais pas si vous parlez un peu dauphin quand même. Alors vous avez dit qu'il vous disait bonjour, qu'il vous saluait. Est-ce qu'on se dit au revoir en dauphin ?
Parfois, pas toujours. Mais ils vont décroître leurs interactions et on comprend que la session se termine. Et parfois, voilà, on a droit à un dernier tour de salutation.
Avant de se dire au revoir, merci infiniment d'être venu en direct, partager, nous émerveiller, Fabienne Delcourt. Je ne saurais trop recommander la lecture de votre ouvrage. Personnellement, je l'ai dévoré. Dont nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous le demandez par mail, en précisant bien votre adresse postale. Et peut-être pourrez-vous vous aussi vous glissez presque dans la peau d'un dauphin. C'est le titre de cet ouvrage. Intelligence, émotion, culture à la rencontre d'animaux singuliers, édité chez Flammarion. Vous revenez quand vous voulez, Fabienne Delcourt, avec des nouvelles.
Merci, dauphins. Merci beaucoup.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion à 23h, temps universel. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast, disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour nous demander de quoi ChatGPT est-il le nom ? Pourquoi depuis sa mise en ligne en open access, cette intelligence artificielle, cet agent conversationnel fait tant parler de lui ? Vraie rupture technologique, voire anthropologique, ou simple buzz, nous en débattrons lundi ensemble. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à tous les autres. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.